ici.
L'alerte aérienne a été levée à Belgrade. Toute la nuit, les avions de l'OTAN se sont livrés à une activité intense au-dessus de la capitale yougoslave. Mais la tension semble être retombée en partie maintenant après une nuit de bombardement.
Grand reportage.
C'était le 24 mars 1999. L'OTAN débute ses bombardements sur la Yougoslavie, dirigée par Slobodan Milošević. Le dirigeant nationaliste serbe est accusé de préparer une nouvelle campagne de nettoyage ethnique contre les Albanais du Kosovo. Pendant 78 jours, l'Alliance bombarde, principalement des cibles militaires, mais les frappes font aussi des centaines de morts civiles. Aujourd'hui encore, le souvenir de ces bombardements reste très présent dans la mémoire collective et dans une Serbie peuplée en majorité de Slaves orthodoxes. Le conflit en Ukraine a ravivé le sentiment anti-occidental. 25 ans après, la Serbie toujours hantée par les bombardements de l'OTAN, c'est un grand reportage de Louis Seyé.
Bonjour, je suis Ludmila.
Dejan, désolé du retard. Voilà. C'est ici qu'on s'est rencontrés, Ludmila et moi, il y a 25 ans, le 24 mars 1999. C'était notre premier rendez-vous, exactement à cet endroit. On ne s'intéressait pas vraiment à ce qu'il se passait au niveau politique, et d'un coup, on a vu les premiers avions de l'OTAN, les premiers tirs, puis on a entendu les premières sirènes. On a aperçu les gens en bas du parc qui allaient dans des refuges. Il y avait un club près de la Sava et on voyait que les gens y allaient avec des couvertures. Et au bout d'un moment, des sirènes étaient en train de sonner en continu et c'était le signe que ça commençait.
Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu ces sirènes ?
En fait, quand on s'est retrouvés, Dejan voulait me montrer l'endroit où il était né. C'est l'un de ces bâtiments en face de Novi Beograd. Et ici, dans le parc de Kalaï Majdan, il y a une belle vue. Mais quand on est arrivé dans le parc, c'est là que le bombardement a commencé, avec des éclairs et des tirs antiaériens. Mais même à ce moment-là, on ne pensait pas que c'était des bombardements. On se disait que c'était des feux d'artifice et que c'était idéalement romantique pour notre rendez-vous. Mais en général, ces années-là étaient déprimantes. Il y avait constamment des mauvaises nouvelles. Donc je ne savais pas ce qui allait encore arriver avec ces bombardements.
Oui, c'était comme l'apogée de la décennie, celle des années 1990. C'était le dernier chapitre de cette époque. Bien sûr, il n'y avait pas la guerre comme en Bosnie, au Kosovo et en Croatie, mais aux informations, on voyait constamment des images d'avions et de combats.
RFI.
L'alerte aérienne a été levée à Belgrade. Toute la nuit, les avions de l'OTAN se sont livrés à une activité intense au-dessus de la capitale yougoslave. Mais la tension semble être retombée en partie maintenant après une nuit de bombardement. Les premières frappes sont donc intervenues hier soir vers 19h, temps universel.
À l'époque, le Kosovo, cette région du sud de la Serbie, est le théâtre d'affrontements entre les forces du régime nationaliste de Slobodan Milošević et la guérilla indépendantiste albanaise. 3 ans après la fin de la guerre en Bosnie, les Occidentaux craignent de nouvelles campagnes de nettoyage ethnique menées par l'armée yougoslave et une extension du conflit à la Macédoine.
Tout a été fait pour faire prévaloir une solution de raison, une solution de paix, une solution conforme aux droits de l'homme. Tout. Devant l'obstination injustifiable et incompréhensible du président Milošević, les alliés unanimes ont estimé qu'il n'y avait plus d'autre choix que d'intervenir militairement contre des objectifs serbes bien ciblés. Et ceci afin de contenir une tragédie qui, de proche en proche, menace la stabilité de tous les Balkans.
À Rambouillet, les négociations échouent et le président serbe refuse l'ultimatum américain. Sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'OTAN lance l'opération Force Alliée. Pendant 11 semaines, l'Alliance Atlantique procédera à plus de 10 000 bombardements sur la Serbie, le Kosovo et le Monténégro.
Stéphane,
25 ans après, ces frappes sont toujours un traumatisme pour la société serbe. À l'époque et encore aujourd'hui, Dejan Ubović et Ljudmila Stratimirović sont actifs au sein de la scène culturelle de Belgrade et opposés au régime nationaliste en place.
Aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire que ces bombardements n'ont pas duré si longtemps. Mais on était si isolés. Et tous les jours, je commençais à pleurer. Les larmes coulaient. On se demandait quand ça finirait et que tout irait enfin bien. On ne peut pas dire qu'on s'attendait à ce que les choses s'améliorent. C'était vraiment la pire des solutions de nous bombarder.
Surtout que, comment dire, tu es contre le pouvoir de Milošević. Depuis des années, tu es présent aux manifestations, aux protestations contre la police. Vraiment, en 1996, par exemple, on manifestait tous les jours contre les élections truquées. Donc on était contre tout ce que faisait ce régime, avec cette police qui persécute. Et puis les bombardements commencent. Et alors là, vous vous trouvez dans cette situation douloureuse et vraiment incroyable. Et maintenant, c'est nous, les civils, qui sommes bombardés. Ce n'est pas normal. C'était un peu schizophrène comme situation. Et les gens étaient en colère contre l'Occident parce que ce n'était pas normal. On ne le méritait pas.
Aujourd'hui encore, et toujours pendant les guerres, des décisions sont prises contre un pays et une société tout entière. Mais ceux qui prennent ces décisions ne pensent pas aux individus. Mais en Serbie, il y avait tellement de gens qui, pendant des années, avaient refusé de servir le régime et qui ont fui les mobilisations, et ils ont disparu. Ou parfois, c'est leurs proches qui ont disparu. En Serbie, on se trouve quelque part entre l'Ouest et l'Est. Ça a toujours été une zone de turbulence.
Oui, et je pense qu'une énorme erreur a été commise à l'époque, mais aussi plus tard. D'une manière ou d'une autre, cela a profondément marqué les gens qui étaient un peu indécis entre l'Ouest et l'Est. Ils s'en souviennent. Encore l'autre jour, j'étais à l'hôpital et l'une des employées me parlait de sa voisine qui souffrait des conséquences de ces bombardements à l'uranium. Donc le sujet n'est toujours pas clos. Les Occidentaux n'ont toujours pas dit « Ok, nous avons fait des erreurs. Milošević était notre cible, mais beaucoup de gens qui ne le méritaient pas ont été victimes de ces bombardements. Ce sentiment persiste au fil des années. »
Le bilan des frappes et des victimes civiles n'a jamais été officiellement établi. Il varie de 500 morts, essentiellement des Kosovars albanais selon l'ONG Human Rights Watch, à 2500 selon les autorités serbes. Au pouvoir depuis 2012, le président Aleksandar Vučić agite régulièrement le souvenir de ces bombardements. Le dirigeant populiste était lui-même à l'époque le ministre de l'Information de Milošević.
Président République Serbie, Aleksandar Vučić.
Ce qui est un crime pour nous, la mort de 2500 civils, la mort de 79 enfants, la dévastation d'un pays, des dégâts qui se comptent en dizaines de milliards de dollars, tout cela sera toujours un crime pour nous. Mais pour eux, quand ils l'admettent, c'est une erreur. Et parfois, ils ajoutent l'adjectif « tragique ». C'est ce que nous n'accepterons jamais.
Le traumatisme de ces bombardements est aussi rappelé presque quotidiennement dans les médias contrôlés par le parti du président Vučić. Ce souvenir douloureux s'affiche aussi dans les rues de Belgrade. 25 ans après, plusieurs bâtiments détruits par les frappes sont toujours en ruine. Le ministère de la Défense, mais aussi le bâtiment de la RTS, la télévision d'État.
10 morts et 18 blessés seront retirés des décombres du bâtiment de la télévision serbe, selon l'agence de presse yougoslave Tanjung. Une frappe qualifiée de légitime, voire par l'Alliance, est annoncée en filigrane depuis le 17 avril par le général Clark, commandant les forces alliées, au motif que la télévision serbe était un outil de propagande du président Milošević.
Un lieu symbolique des victimes civiles de ces bombardements, mais aussi controversé puisque le régime de Milošević est accusé de ne pas avoir donné l'ordre d'évacuer. Aujourd'hui, les ruines du bâtiment sont toujours bien visibles, tout près de l'église Saint-Marc, dans le centre de Belgrade.
Je suis Aleksandar Obradović, j'ai 39 ans et je suis anthropologue ici à Belgrade.
Là, on est devant le bâtiment de la RTS, donc c'est la télévision d'État. Est-ce que à l'époque, vous et votre famille, vous la regardiez? Est-ce que c'était un média très regardé en Serbie?
C'était un exemple d'une situation très complexe avec la société serbe à l'époque, même aujourd'hui. Parce que à l'époque et aujourd'hui, RTS a été vu par beaucoup de monde comme une télévision du régime qui informe pas avec de objectivité, mais très avec une agenda politique qui supporte le régime de Milosevic et aujourd'hui régime de Vučić. Donc on n'a pas de sympathie pour RTS, mais quand même, c'est un choc de bombarder une maison de médias.
Est-ce que vous diriez que ces événements, ils sont encore vraiment traumatiques pour la société serbe?
Oui, c'était un événement traumatique, bien sûr, mais je pense que cette traumatisation prolongée est intentionnelle. C'est un projet de le régime pour cacher toutes les autres questions qui sont beaucoup plus importantes, comme l'économie, comme la justice, le fonctionnement des institutions, oppression des médias, oppression des institutions, népotisme. Donc tout ça se cache avec les questions, avec un débat de Kosovo. Cette question est très utilisée par les régimes pour ça.
C'est peut-être aussi un aspect important, parce que souvent à l'extérieur, on oublie que la Serbie elle-même était très divisée. Il n'y avait pas un soutien total à Milosevic. Et ce qui se passait en Bosnie ou au Kosovo, est-ce qu'elle savait aussi ce qui se passait là-bas?
Serbie a été divisée et c'est encore divisé entre l'Ouest et l'Est. Donc il y a une partie de la société qui est pro-européenne et une partie de la société qui est pro-russe. Mais au niveau de la guerre et du rôle de la Serbie dans les guerres yougoslaves, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts de comprendre le rôle de la Serbie dans tout ça. Donc on peut dire qu'il y a un consensus que la Serbie a été une victime, et ce n'est pas vrai.
Les murs de la capitale serbe reflètent aussi ce sentiment dominant. On y voit beaucoup de graffitis anti-OTAN et anti-américains, ou des tags qui célèbrent certains militaires et paramilitaires serbes. Des personnes condamnées par la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Et depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, de nouveaux slogans sont apparus en soutien à la Russie de Poutine. En Serbie, la Russie est souvent perçue comme le grand frère orthodoxe et le principal allié du pays. Surtout par la jeunesse d'extrême droite, dont les idées se diffusent largement dans l'opinion.
Je m'appelle Dobrica Petric, je suis né en 1999, je travaille dans l'information et les technologies, la cybersécurité.
Crâne rasé et pull noir, il est devant une fresque écrite en cyrillique avec la date du 24 mars 1999.
Peut-être que l'on peut pardonner, mais on n'oubliera jamais ce qu'on nous a fait. C'est ce qui est écrit sur cette fresque. Ce n'est pas la seule, on a aussi réalisé plusieurs graffitis liés au Kosovo, parce qu'il n'est pas possible d'oublier qu'on nous a pris le Kosovo et on ne l'oubliera jamais. Ces peintures murales, c'est l'un des nombreux moyens d'informer les gens et d'atteindre les masses.
Donc là, depuis quelques mois, il y a des nouveaux graffitis qui sont apparus dans Belgrade et qui disent donc « quand l'armée reviendra au Kosovo ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire que tout va s'améliorer pour notre peuple. Et il faut juste qu'on attende un peu que le contexte géopolitique change, car le temps de l'hégémonie occidentale et surtout américaine est révolu. Ici, il y a pas mal de gens qui se préparent à une sorte de conflit ou à une éventuelle libération des territoires, de nos territoires occupés. Nous, on travaille autant qu'on peut pour changer la situation dans tous les domaines. Pour l'instant, on ne peut pas affronter seul l'OTAN, mais je voulais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous pouvez prendre une photo là sur la manche de mon pull, c'est le drapeau de la Nouvelle Russie. C'est un sweatshirt qu'on a confectionné avec notre groupe Jeunesse Serbe. Et là, sous la capuche, regardez, voilà Poutine.
Ah oui, alors là, Dobrica vient de mettre sa capuche et en sortant de sa capuche, en fait, il y a un masque de Poutine qu'il peut mettre sur sa tête. Alors, qu'est-ce que c'est ce pull, en fait? Donc, il y a un drapeau rouge avec des bandes bleues, mais il y a aussi une date sur le côté, 1389.
Nous les Serbes, nous avons nos propres marques de vêtements patriotiques. Et c'est par exemple ce pull que je porte. Sur la manche gauche, on peut voir le drapeau de la Nouvelle-Russie. Et sur le côté droit, c'est l'année de la bataille du Kosovo, 1389, lorsque le prince Lazare a combattu les armées bien plus nombreuses de l'occupant turc. Il a été décapité et c'est un personnage sacré dans notre église. Et donc dans ma capuche, il y a ce filet à l'effigie de Poutine que l'on peut utiliser comme masque. Il y a d'autres marques qui reprennent tous ces symboles, comme Poutine.
Et celui qui peut vous aider pour changer les choses, c'est Vladimir Poutine ?
L'un d'entre eux, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est l'une des personnes qui peuvent nous aider. Mais je pense que si Trump revient bientôt, ce que j'espère vraiment, je pense que la situation pour nous, pour la Serbie, pour le peuple serbe et surtout pour notre peuple au Kosovo, cela va changer. Et on a beaucoup d'amis, les présidents chinois, biélorusses, les russes bien évidemment. Donc je pense que la géopolitique et le temps jouent en notre faveur, donc on attend et on se prépare.
S'il reste minoritaire, ce discours victimaire et revanchard se fait de plus en plus entendre dans la société serbe. À l'école ou dans les principaux médias, les crimes commis par l'État serbe dans les années 90 et le travail de la justice internationale sont passés sous silence. Bien peu de jeunes serbes ont entendu parler du génocide de Srebrenica en Bosnie ou des massacres commis au Kosovo. Mais quelques universitaires et une partie de la société civile tentent de remédier à cette amnésie généralisée. Comme avec cette exposition en forme de labyrinthe. Après Belgrade, elle sera présentée à Zagreb en Croatie, puis Sarajevo en Bosnie-Herzégovine et les autres capitales de l'ancienne Yougoslavie.
Oui, je suis Dubravka Stojanović, je suis historienne, prof à la faculté de philosophie ici à Belgrade, département d'histoire. La chose la plus importante qu'il veut dire, c'était que sommes nous les victimes les plus grandes. Alors, Holocauste, ça n'existe pas, Srebrenica, ça n'existe pas, et tous les autres épisodes de Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc., etc. Alors, c'est que les Serbes, alors c'est une philosophie d'histoire qui est paranoïque, qui est xénophobe, qui est complètement fermée, alors on voit que soi-même... Et grâce à ça, vous êtes complètement, vous vous séparez du monde entier. Alors vous vivez dans une fantaisie qui n'est plus réelle. Vous ne voyez pas les victimes des autres, vous ne voyez pas ce que la Cour internationale a décidé. Ça vous n'intéresse plus, vous vivez dans votre fantaisie. Et à cause de ça, on a beaucoup de problèmes politiques parce qu'on est complètement isolé du monde réel et du monde entier.
Et ça vous inquiète pour le futur ? Parce que là, on se trouve dans un labyrinthe. Quand on se balade dans l'exposition, effectivement, on ressent ce côté enfermement dans le labyrinthe. On a l'impression que les sociétés ex-yougoslaves ne sont toujours pas sorties.
Et voilà, c'est pour cela qu'on a fait le labyrinthe. On a pensé plus qu'un an quel est le message le plus fort. Et à la fin, c'était l'idée de Igor Stix qui a dit « Mais il faut construire un labyrinthe parce qu'on est toujours là-bas, on est toujours dans cette décade de 90. » On n'a pas sorti, mais la question est, est-ce qu'on veut sortir? Est-ce qu'on peut sortir?
Vingt-cinq ans après, la Serbie toujours hantée par les bombardements de l'OTAN. Un grand reportage de Louis Seyé, réalisation Victor Hull.